Alors, ça c'est un problème qui va directement, évidemment, se poser. Einstein va supposer, va découvrir qu'une solution de ces équations, de cette fameuse équation qui dit énergie-matière égale, grosso modo, la forme de l'univers à une constante près, il va découvrir qu'une des solutions, c'est un univers qui est fini, mais statique. Oui. Donc une des solutions, ça veut dire que une des solutions possibles, c'est un univers qui n'a pas d'histoire. Donc c'est-à-dire, il peut y avoir des choses qui bougent dans l'univers ou qui se passent dans l'univers, mais l'univers en lui-même est une structure géométrique qui ne bouge pas. C'est une des solutions.
Mais alors du coup, si on veut aller au bout de l'univers, c'est pas logique, parce que du coup la masse va aller à au bout de l'univers.
Non. Non, pas nécessairement, parce que, et c'est ça, disons, c'était ça, les avancées qui avaient été faites dans la géométrie du 19e siècle, d'accord ? Ce que, par exemple, Kant ne voyait pas, c'est que une structure géométrique, un objet géométrique fini, de volume fini, d'accord ? Peut très bien ne pas avoir d'extérieur, ni avoir de frontières. Donc l'idée de Kant, et qui est notre idée intuitive, c'est que toute structure finie a nécessairement un bord et peut être plongée dans un univers plus grand. Prenons par exemple un segment, je veux dire un segment de droite, ça a deux bouts et c'est plongé dans un univers plus grand. La découverte de la géométrie du 19e siècle, c'est de dire il existe des structures géométriques finies sans bord et sans extérieur. Alors, vous dites, mais non, ça ne peut pas exister. Je vous donne un exemple de ça. Alors, un univers qui n'a pas de bord, c'est typiquement le cercle. Parce que si vous prenez le segment et vous connectez les deux bouts, celui qui est sur le cercle, imaginons une fourmi prisonnière du cercle, elle peut tourner indéfiniment sur le cercle sans jamais rencontrer le moindre obstacle. Donc, bon, alors bien sûr, le cercle est plongé dans un univers plus grand. Là, c'est une structure qui n'a pas de bord. D'accord ? Parce que la fourmi ne rencontre jamais aucune frontière, elle tourne dans le cercle indéfiniment, mais il y a un extérieur. Maintenant, l'univers, pour être un univers fini, il faut que si l'univers est la totalité des phénomènes, il soit éventuellement fini, sans bord et sans extérieur. Parce que s'il y a un extérieur à l'univers, alors ça doit être une autre partie de l'univers, d'un univers plus grand. C'est pas tout l'univers. Comment pourrait-on concevoir un univers de volume fini, sans bord et sans extérieur? Bon. Alors ça, c'est, on peut se l'imaginer assez facilement. Enfin, il faut un peu d'imagination. Le modèle le plus simple, ce serait de dire, imaginez une structure de volume fini comme la classe ici. Hein, c'est un parallélépipède de volume fini. Alors, imaginez que je fais cette opération, qui est exactement la même opération, mais un peu plus sophistiquée, que celle que je ferais en disant, voilà, j'ai un segment, et le point A, le point B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, en réalité, je vais identifier le point A au point B. Donc je vais dire qu'en réalité, le point A, c'est le point B. Ça revient, d'une certaine manière, à faire quoi? Ça revient à prendre le point A et à mettre le point B ici. D'accord? Donc identifier le point A et le point B, c'est faire comme ça. D'accord? Et remarquez qu'alors, la structure, ici, je peux tomber là ou je peux tomber là, si je me déplace. Ici, si je me déplace sur la structure, je ne rencontrerai jamais aucune frontière. Alors je vais faire la même chose, mais pour une structure à trois dimensions. Donc une structure à trois dimensions, vous voyez, vous avez le fond, et vous avez ici l'autre mur, et je vais identifier les deux. D'accord? Je vais dire, ça, c'est ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez une classe comme ceci, le mur ici, le mur A, je l'identifie au mur B, qui est ici. Autrement dit, quand je rentre, quand j'essaye de sortir de l'univers, puisque ça, c'est ça, en réalité, j'y rentre. D'accord? Bon. C'est exactement la même chose qu'ici. Quand j'essaye de sortir d'ici, comme ceci est égal à ça, ben, quand je sors par là, je rentre par là. D'accord? Bon. Imaginez maintenant que je fais ça avec le plancher et le plafond. Donc je dis maintenant, ça égale ça. Ça égale ça. Quand j'essaye de descendre en bas, je sors du plafond. D'accord? Et puis, j'identifie ça et ça. D'accord ? Qu'est-ce que j'ai comme structure ? Ben, j'ai une structure de volume fini. Base soit hauteur est fini. Le volume est fini. Il n'y a pas de bord. Parce que si j'essaye de rencontrer une frontière, jamais je ne rencontrerai une frontière. Puisque quand je pars là, je passe ma main là et elle réapparaît ici. Donc il n'y a pas de bord. C'est fini sans bord et il n'y a pas d'extérieur. Parce que dans le fond, si j'essaye de mettre en évidence l'extérieur, je rentre à l'intérieur. Il n'y a pas d'extérieur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un tore à trois dimensions. Donc c'est une structure géométrique qui est de volume fini, de géométrie parfaitement plate. Il n'y a aucune courbe dedans. Je peux me déplacer en ligne droite sans être déporté à gauche, à droite. Donc c'est un espace fini, euclidien, donc sans courbure, hein, et d'une certaine manière sans bord. D'où, j'arrive, les physiciens, les géomètres, étaient habitués à avoir des structures tridimensionnelles, éventuellement sans extérieur et sans bord, d'où le problème de savoir, oui mais enfin s'il y a une limite de l'univers, alors, vous voyez, c'est cette imagerie du Moyen-Âge dans laquelle on dit, oui mais si le monde est une sphère, alors qu'y a-t-il? Alors je devrais pouvoir sortir ma tête, voyez, pour regarder ce qu'il y a en dehors. Eh bien, cette imagerie c'est une des possibilités, mais les géomètres avaient découvert que c'est pas la seule. Il y a des structures qui n'ont pas d'extérieur et qui sont par ailleurs de volume fini, sans bord. Et donc, la cosmologie connaissait ces structures-là. Et donc, Einstein trouve en fait dans ses équations une solution d'un univers qui est statique, c'est-à-dire il ne bouge pas en fonction du temps. C'est un peu comme si les parois ici restaient à la même place, enfin ne bougeait pas en tout cas, il n'y a pas de dilatation, et une structure qui est un peu comme ça, mais qui est en plus courbée, c'est-à-dire si vous allez tout droit, vous éclairez devant vous, eh bien vous allez éclairer votre cou au bout d'un certain moment. Donc si vous êtes sur une structure comme ça, et que la lumière reste prisonnière, mais si vous l'envoyez là, elle finira par retourner derrière vous. Donc la solution que Einstein trouve dans ses équations, c'est un univers à trois dimensions, qui est courbé. Si vous allez tout droit, vous allez revenir, si la lumière va tout droit, elle va éclairer votre cou, si vous voulez, et sans extérieur, mais statique. Et ça, il le trouve en 1917. Et c'est le premier exemple de solution qu'il va trouver. Oui.
Alors, moi, j'ai une question par rapport à la modification du temps. Est-ce que, quand on lance une bille, s'il y a des creux et des bosses, elle va ralentir et réaccélérer? Et quand il y a une planète, qu'il y a une comète qui passe à côté, elle ne ralentit pas?
Le temps, qu'est-ce que c'est le temps? Ben, le temps, c'est tic-tac, tic-tac. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Le temps, c'est ce qui est mesuré par des horloges. Alors, comment est-ce qu'on peut faire des horloges? Ben, on peut faire, par exemple, des horloges en envoyant de la lumière sur un miroir, tic, et puis la lumière se réfléchit, ça fait tac. Et l'intervalle entre tic et tac, c'est une unité de temps. D'accord ? Bon. Maintenant, si je mets de la gravitation là-dedans, les rayons lumineux vont subir l'effet de la gravitation. Et donc, d'une certaine manière, vont être ralentis. D'accord ? Si je mets de la gravitation là-dedans, la lumière va être ralentie par la gravitation. Et donc, l'intervalle entre tic et tac va se modifier. Et donc, le temps va être, d'une certaine manière, modifié par la gravitation. Et ce qui se traduit dans le terme einsteinien en disant, il y a, d'une certaine manière, une sorte de courbure du temps. C'est-à-dire, le temps va se modifier en fonction du champ gravitationnel. Les horloges ne tournent pas de la même façon près et loin des champs gravitationnels. Alors, c'est un phénomène qu'on mesure tout à fait maintenant et dont on doit tenir compte. Sinon, les GPS ne marcheraient pas. Donc, les GPS marchent avec une horloge interne et on est obligé de faire des corrections qui sont liées au champ gravitationnel. Sinon, les GPS n'auraient pas la précision qu'ils ont. Donc, il y a un ralentissement du temps qui se fait dans le champ gravitationnel. Et ça, bon, c'est quelque chose qui est vérifié tous les jours dans le GPS, hein, et qui a été postulé par Einstein en 1913-1915 et qui a une conséquence, entre autres cosmologique, c'est-à-dire que la structure, l'énergie et la matière provoquent un effet sur l'écoulement du temps. parfois bloque le temps, c'est le cas d'un univers statique, où globalement l'univers n'évolue pas, mais peut éventuellement avoir des effets dynamiques, c'est-à-dire que l'univers peut avoir une histoire. D'accord ? Ah, tu comprends aisément que l'idée que le fait qu'il y ait des forces de gravitation modifie la forme des trajectoires. On peut traduire ça géométriquement en disant la gravitation n'est qu'un effet de courbure de l'espace. Eh bien, si on fait la même chose au niveau temps, mais l'espace et le temps sont toujours liés en relativité. On peut se rendre compte, si je dis j'ai cours à Philanthropos à 14h30, on dit où ? Et si je dis vous avez cours dans telle salle, oui mais quand ? Donc en fait, espace et temps sont toujours liés. Et donc, ce qui se passe sur l'espace, nécessairement se passe sur le temps. D'accord ? Donc en fait, si on comprend que la gravitation courbe la géométrie spatiale, nécessairement la gravitation a aussi un effet temporel, de ralentissement ou d'accélération de l'histoire. D'accord ? C'est ce que Einstein a trouvé, si on veut.